Chapitre 49 Fin contre fin. Certes, le sieur Firmin n'était pas un idiot, et dans les importantes fonctions qui lui étaient confiées, il avait plus d'une fois fait preuve de zèle et d'intelligence. Mais il avait affaire à forte partie, et Claudine, instruite par l'expérience, en aurait remontré à de plus fins. La chambre qu'elle occupait donnait sur la rue, et son premier soin, après y être entré, avait été de s'assurer de la direction que prenait le citoyen Maubert. Or, tout en suivant la voiture du regard, elle avait remarqué le commissionnaire. On a beau faire partie de la police, on ne se défie pas du jour au lendemain de ses habitudes pour prendre la désinvolture propre à un enfant de l'Auvergne. Claudine soupçonna tout de suite l'agent sous l'habit du commissionnaire, et quand elle le vit revenir et prendre position en face de l'auberge, elle n'en demanda pas davantage et se déclara satisfaite. Aussitôt, elle appela un garçon, se fit monter une plume, du papier, de l'encre et à la hâte, avec une vivacité fiévreuse que tout le monde put remarquer, elle écrivit quelques lignes qu'elle s'empressa de cacheter. « Et maintenant, dit-elle à son hôte, vite un commissionnaire pour porter ce billet. » Firmin, mandé sur le champ, accourut sans perdre de temps. « Mon ami, dit Claudine, en tournant et retournant en tous sens le billet qu'elle tenait à la main, peux-tu te charger d'une commission importante ?» « De quoi s'agit-il ? » demanda Firmin. « De ce billet. Et où est-il adressé ? » ?»« Rue Saint-Honoré, à M. Guillaume. » « L'adresse est bonne ? » ?»« Chut ! Qu'y a-t-il ? » Claudine entraîna le commissionnaire dans un coin. « Écoute, dit-elle, voici un écu pour toi, mais il faut être discret. » Ne dis à personne où tu vas, ne laisse soupçonner à qui que ce soit la mission dont je te charge. Oh, c'est donc un émigré, dit Firmin en baissant la voix. Précisément. Oh, alors je comprends, et tu seras discret. Comme un poisson. Eh bien, va, allez, hâte-toi, et viens ici m'apporter la réponse. Firmin partit, rapide comme l'éclair, souriant en lui-même du hasard qui le servait si bien, et se félicitant de la facilité avec laquelle il allait remplir les instructions de son chef de file. Seulement, il avait à peine tourné le coin de la rue que Claudine quittait l'auberge à son tour et qu'elle disparaissait dans le lacis des rues tortueuses qui avoisinaient l'auberge des Trois Frères. Le dépit, la fureur de Pinsard, quand il apprit que Claudine avait disparu, nous n'avons pas besoin de les raconter. Cela se conçoit plus facilement qu'on ne peut l'exprimer. 3 mois de patience, d'adresse, d'habileté perdue, une campagne manquée, 1000 ruses employées en pure perte, tout a recommencé. C'était à désespérer de parvenir jamais à s'emparer du misérable Dubosc. Dans quel quartier de Paris les deux compagnons étaient-ils allés se réfugier? De quel côté diriger les recherches? Quels moyens employer pour s'en rendre maître? Pinsard, honteux et confus, passa 8 jours au milieu du découragement le plus complet. Au bout de 8 jours, il réagit contre cet état de prostration, se raidit contre son découragement et appela de nouveau à lui toutes les ressources de sa nature énergique. Il était temps. Les agents commençaient à trouver son inaction singulière et il était menacé de perdre l'estime de ses meilleurs amis. Un matin donc, on le vit revenir à son cabinet, et son garçon de bureau, qui dormait depuis 8 jours, se réveilla en sursaut à l'appel de la sonnette violemment agitée. Maître Pincard avait repris possession de ses fonctions. Dès le jour même, Paris fut mis sans dessus-dessous, et le lendemain, ce fut un va-et-vient d'ordre et de rapport comme on n'en avait jamais vu depuis l'institution de la police. Mais les jours, les mois se passèrent sans que rien vînt rendre l'espoir à l'agent, et malgré l'ardeur des investigations, on ne trouva aucune trace de Dubos ni de Claudine. Firmin avait été honteusement chassé depuis son échec, et il se tenait à l'écart, attendant une occasion favorable pour entrer en grâce. Pinsard le regrettait bien un peu, mais l'intérêt de la société parlait plus haut que ses sentiments d'amitié, et il avait fini par n'y plus penser qu'à ses heures perdues. D'ailleurs, l'âpreté de la lutte prenait tous ses instants. 8 mois déjà s'étaient écoulés, et on avait pu lui dire où s'étaient réfugiés Dubosc et Claudine. Qu'étaient-ils devenus? Se trouvaient-ils à Paris? N'avaient-ils point passé à l'étranger? Rien, rien, rien. Le 8e mois allait finir, et Pinsard commençait à se lasser de ses recherches vaines, et peut-être allait-il tourner d'un autre côté l'activité de son esprit, quand un soir se produisit un incident auquel il était loin de s'attendre. Il se trouvait seul dans son cabinet et se disposait même à se retirer, quand son garçon de bureau vint lui annoncer qu'une personne désirait lui parler. « Quelle est cette personne ?» demanda Pimpard. « Je ne la connais pas, » répondit l'agent subalterne. « Quelle physionomie ?»« Figure pâle, lunettes d'or, front chauve, cravate blanche. »« Ah, mais c'est un médecin. Je l'ai pensé aussi. »« Et que veut-il ?»« Ben, il prétend que l'affaire est urgente. »« Faites entrer. » Le garçon se retira et presque immédiatement, la personne annoncée pénétra dans le cabinet de Pinsard. Ce dernier s'était levé, il salua froidement, offrit un fauteuil et vint reprendre place à son bureau. L'inconnu salua. « Je vous écoute, monsieur, » dit l'agent. « Bon, si, et d'abord, permettez-moi de vous apprendre que je m'appelle Basculard et que j'exerce depuis 25 ans la profession de médecin accoucheur. J'habite un quartier excentrique de Paris où je suis parvenu à me faire une clientèle assez considérable. Au fait, monsieur, au fait, bien, le fait est qu'il y a 8 jours à peu près, j'ai été appelé auprès d'une femme jeune encore, qui se trouve dans une position intéressante et qui m'a demandé de vouloir bien lui donner mes soins. Eh bien, or, savez-vous comment s'appelle cette femme? Oh, que m'importe! C'est cependant là le point essentiel. Bon, alors comment s'appelle-t-elle donc? Claudine Barrière. Chapitre 53, La femme et la mère. Pinsard sauta sur son fauteuil. « Claudine, dites-vous » répéta-t-il. « Claudine Barrière ?»« Oui, précisément. Et vous l'avez vue hier ?»« Elle habite Paris ?»« Elle ne l'a jamais quittée ?»« Seule ? Oh oui, absolument seule. »« Mais c'est impossible !» Pourquoi donc? Mais cette femme n'est pas seule, vous avez dû rencontrer son amant chez elle. Le médecin sourit. Ouais, c'est ce que je m'étais dit, répondit-il. Je l'ai interrogé, je l'ai surveillé, tout a été inutile. Enfin, le renseignement est bon. tenir la femme, savoir où elle se cache, c'est beaucoup. Mais ce n'est pas assez, n'est-ce pas? Parbleu, il vous faudrait encore l'adresse de l'autre. Oui, c'est cela. Eh bien, je lui ai pensé aussi, et je ne désespère pas de l'obtenir. Qui vous la donnera? Claudine. Elle, vous êtes fou. Non, ce n'est pas ça. Seulement, vous oubliez que Claudine n'est plus ce que vous l'avez connue, et ce que la femme le refuserait obstinément, vous l'obtiendrez sans difficulté de la mère. Pinsard ne répondit pas, mais ses sourcils se concentrèrent et son regard enveloppa son interlocuteur. « Oh, oh !» dit-il avec une dernière hésitation. « Savez-vous, monsieur Baculard, que vous me paraissez connaître le fond, le cœur d'humain ? Oh, vous êtes bien bon. Je dirais plus, monsieur et cher docteur, vous seriez digne d'être admis parmi les plus habiles soutiens de notre institution. » Autant de bienveillance. Pinsard avança la main, prit le bout de l'oreille de Baculard, lui enleva sans façon sa perruque et le débarrassa de ses lunettes d'or. Firmin, mon ami, dit-il, on te pardonne. Oui, le tour est bien joué et je te rends ma confiance. Mais maintenant, les causons à cœur ouvert et dis-moi tout ce que tu sais. Firmin ne se fit pas prier. Il était heureux et raconta comment il s'était insinué auprès de la jeune femme, comment il avait capté sa confiance et quel infernal projet il avait conçu pour connaître par Claudine elle-même l'adresse de Dubosc. Une fois l'enfant entre vos mains, dit-il, nous le ferons jaser. Et pour sauver le bambin, il faudra bien qu'elle nous livre le Dubosc. Oh, elle aimera bien sacrifier son enfant. Non, non, je ne pense pas. Cependant, parce qu'elle a fait jusqu'à présent, mais jusqu'à présent, monsieur Pinsard, je le répète, vous n'avez connu que la femme, il vous reste à connaître la mère. Firmin avait raison, et ce qu'il venait de dire prouvait que rien ne lui avait échappé de ce qui se passait dans le cœur de Claudine. Depuis quelques mois, une véritable transformation s'était opérée en elle. Pendant les longues heures de solitude auxquelles elle s'était résignée pour ne pas compromettre la liberté de Dubosc, elle avait bien profondément réfléchi. C'était la première fois que de pareilles pensées la visitaient, et elle en avait été fort émue. Un sentiment nouveau, puissant, inconnu jusqu'alors, s'était emparé d'elle, le sentiment de la maternité, et elle s'y abandonnait sans réserve. Un autre amour était né dans son cœur. Elle n'avait pas cessé d'aimer Dubosc, mais elle commençait à aimer son enfant. Toutes les mères comprendront cela. De quels rêves enivrés elle berçait déjà ce fruit inespéré de ses amours troublés. Avec quels regards attentris elle le suivait dans la vie. Avec quelle ferveur elle appelait sur lui toutes les fortunes et tous les bonheurs. Et puis, il y avait encore une chose bizarre. À certains moments, elle se prenait tout à coup à rougir et à trembler. Pourquoi ? Elle n'eût pu le dire. Quand elle regardait dans le passé, elle avait comme le vertige. Toutes ses pages tachées de honte ou souillées de sang, elle eût voulu les anéantir. On eût dit que sa conscience s'était subitement éveillée et son cœur se déchirait à l'idée que son enfant pourrait un jour la mépriser. Une fois, entre autres, Dubosc était venu la voir. Ses visites étaient rares, son intérêt l'exigeait, car il savait avec quel acharnement la police s'obstinait à le poursuivre. Il avait trouvé ce soir-là Claudine soucieuse et triste. Elle avait pleuré abondamment, elle était atterrée, sans force, sans volonté. Dubosc la regarda avec étonnement et remua péniblement la tête. « Pauvre Claudine, dit-il d'un ton navré, comme te voilà changée, et qu'il y a loin de ton énergie d'autrefois à ton accablement d'aujourd'hui. » Claudine ne répondit qu'en fondant en larmes. « Tu n'as donc plus confiance en moi, tu ne m'aimes donc plus, » insista Dubosc. Claudine lui jeta ses deux bras autour du cou. « Ne parle pas ainsi, » répondit-elle en sanglotant. « Mais que se passe-t-il donc, alors ?
J'ai peur. »«
Mais de quoi ?
De tout. »
Cependant, en tant que je vivrai, tu sais que ma vie est à toi.
Je le sais, Guillaume, je ne doute pas. Mais je voudrais t'adresser une prière.
Oh, que ne parles-tu?
C'est que c'est grave.
Mais de quoi s'agit-il?
De notre enfant.
Eh bien,
pour lui, écoute. Pour ce pauvre petit être que je ne connais pas encore, mais que j'aime déjà toutes les forces de mon âme, je voudrais...
Achève.
Je voudrais m'en aller d'ici, fuir bien loin, si loin que jamais les tristes souvenirs de notre passé ne puissent venir jusqu'à nous.
Mais c'est insensé.
Non, Dubosc, non. J'ai bien pensé à cela depuis quelques mois. Je ne veux pas qu'il mène à son tour la vie misérable que nous avons menée. Je veux qu'il grandisse en nous aimant et qu'un jour nos deux noms ne puissent pas lui être jetés comme la plus cruelle et la plus sanglante injure.
Alors nous allons devenir vertueux, dit Dubosc avec ironie.
Est-ce donc si difficile? Est-ce donc impossible?
Dubosc haussa les épaules et son visage prit une expression de gravité inaccoutumée. Garde-toi de le tenter, répondit-il avec force et enfonçant le sourcil. La pensée même qui t'est venue, Claudine, est une pensée funeste, puisque dès aujourd'hui elle élève une barrière entre nous.
Mais que veux-tu dire? S'écria Claudine d'un ton épouvanté.
« Je veux dire que nous ne nous comprenons plus. »«
Guillaume. »«
Que tu aimes déjà mieux ton enfant que moi-même,
mais ne le crois pas. »«
Je veux dire enfin que cet enfant sera notre malheur à tous deux, et qu'il vaudrait mieux mille fois qu'il ne vint pas vivant en ce monde, ou ne l'attende que honte et mépris. »
Il y avait longtemps que cette scène s'était passée. Claudine était délivrée depuis la veille et elle reposait sous la surveillance d'une grande garde et d'un véritable médecin qui avait assisté Firmin au moment critique. À côté du lit de la jeune femme, l'enfant dormait dans son berceau. C'était le soir. Claudine venait de se réveiller et son premier regard avait été pour son enfant. Elle n'avait pas revu Dubosc et elle l'attendait. Une douce mélancolie paraît son front pâle. Elle avait bien souffert, mais son enfant était là, près d'elle, et elle ne se rappelait qu'une chose, c'est qu'elle était mère. Chose étrange, mystère insondable de la nature. Claudine n'était plus cette femme que nous vous avons vue attachée à son œuvre ténébreuse. Maintenant, le passé l'épouvantait. Le présent lui inspirait de profondes terreurs et elle avait hâte de se réfugier tout entière dans l'avenir. Elle resta un moment silencieuse, plongeant son regard dans le petit berceau qui était à ses côtés. Puis une ombre glissa sur son front, un pénible soupir gonfla sa poitrine, Elle laissa retomber sa tête sur ses mains amaigries et pâles. En ce moment, la porte de la chambre s'ouvrit. Claudine tressaillit et releva le front. Je ne sais quel funeste pressentiment traversa sa pensée. Un homme était entré. C'était Firmin. Claudine se prit à le regarder avec une ardeur inaccoutumée et elle lui trouva un air qu'elle ne lui avait jamais vu encore. Sur un geste vif et prompt de l'agent, le médecin sortit et la sage-femme le suivit. Claudine restait seule avec Firmin. Elle se sentit envahir par une mystérieuse terreur et instinctivement elle se souleva sur son séant. « Qu'allez-vous donc faire ?» demanda-t-elle la gorge serrée. Firmin eut un sourire ironique. « Vous allez le savoir, » répondit-il. Et il alla fermer la porte. Puis, la porte fermée, il se dirigea vers la fenêtre qu'il ouvrit. « Monsieur !» balbutia Claudine d'une voix étranglée. Une silhouette parut alors sur l'appui de la fenêtre et un nouveau personnage sauta dans la chambre. Claudine poussa un cri, elle venait de reconnaître Pinsard. « Eh là là, mon enfant !» dit ce dernier en s'approchant du lit. « Ne vous effrayez pas ainsi avant d'apprendre quel est notre dessein. » Que diable, nous ne sommes pas des Turcs, et je vous promets qu'il ne vous sera fait aucun mal. Mais que voulez-vous de moi? Oh, une chose fort simple. Laquelle? L'adresse de Dubosc. Dubosc, vous voulez que je livre Dubosc? Oui, je ne viens pas pour autre chose. Et vous avez cru que je serais assez lâche? Je le crois encore. Claudine eut un amer ricanement. Oh, vous êtes fou, sans doute, répliqua-t-elle. Le pacte qui me lie à Dubosc est un pacte de vie ou de mort. Et jamais, entendez-vous, jamais. C'est ce que nous verrons. Mais c'est tout vu. Eh bien, ne t'en prends qu'à toi-même de ce qui va arriver. Allez, Firmin à l'œuvre, mon ami, et fais ce qui est convenu. Cet ordre était à peine donné que l'agent se précipitait sur le berceau, enlevait l'enfant dans ses bras et marchait résolument vers la fenêtre. Claudine n'avait rien compris tout d'abord aux menaces de Pinsard. Elle ne supposait pas que l'idée de ce rapt odieux pût jamais venir à quelqu'un. Elle avait pensé que l'on se contenterait de l'effrayer par des violences auxquelles elle était prête à résister. Mais quand l'horrible réalité lui fut révélée, quand elle vit Firmin enlever son enfant et l'emporter dans ses bras, un affreux déchirement se fit en elle. Une imprécation sauvage jaillit de ses lèvres. Elle sauta du lit pour courir après le misérable ravisseur. Seulement, elle avait trop compté sur ses forces. Au premier pas qu'elle fit, elle se sentit défaillir. Une sueur froide inonda ses tempes, et elle fut obligée de se retenir au bras de Pinsard pour ne pas tomber. « Oh, les lâches » cria-t-elle. « Ils se sont mis deux contre une femme. Ils enlèvent son enfant à une mère. » « Ah là, je vous tuerai, je vous... » Pinsard se penchant vers elle. « Ton enfant te sera rendu, » dit-il à voix basse et rapide, « mais à une condition, jamais. »« L'adresse de Dubosc. »« Non, non, je ne veux pas. Tout ce que vous voudrez, mais pas cette lâcheté. »« C'est ton dernier mot. »«
Mon Dieu. »
« Firmin va s'éloigner. »
Attendez, Tu consens donc? Non, 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 c'est une prière que je vais vous adresser. Parle. Vous comprenez bien, n'est-ce pas, qu'il m'est impossible de faire ce que vous demandez. Je ne puis pas trahir Dubos, moi, je ne puis pas le livrer. Dubos, c'est ma vie et mon âme aussi. Si vous étiez femme, vous comprendriez cela. Mais ton enfant, mais c'est de lui que je veux vous parler. Tu ne le reverras plus. Ne me dites pas cela, c'est de la cruauté. Vous n'avez pas besoin de me déchirer le cœur comme vous le faites. Seulement avant qu'il parte, tenez, je voudrais. Quoi donc? C'est à peine si je l'ai vu, la pauvre petite créature. Je voudrais le voir, l'embrasser une dernière fois. Vous ne pouvez pas me refuser cela. Et tu nous diras, mais que voulez-vous que je vous dise? Vous voyez bien que je n'ai plus la tête à moi. Je ne sais plus ce que je dis ni ce que je fais. Je vous donnerais une fausse adresse sans le vouloir même, et je vous tromperais. Oui, ne me repoussez pas, ayez pitié, pitié. En parlant ainsi, la malheureuse roulait sa tête échevelée dans ses mains, et elle pleurait et sanglotait. Mais Pinsard ne devait pas se laisser toucher. Il fit un geste impérieux à Firmin, et ce dernier, enjambant la fenêtre, disparut avec l'enfant, suivi de près par son chef. Claudine n'avait plus la force de crier. Sa voix s'étrangla dans son gosier. Elle eût voulu se lever et courir, mais elle restait clouée à sa place, comme en proie à un cauchemar terrible. Elle serait morte, peut-être, morte d'épouvante et de terreur, si à ce moment même le hasard ne lui avait envoyé un sauveur. La porte venait de voler en éclats sous un effort puissant, et Dubos était entré. Chapitre 54. La mère. Un coup d'œil suffit à ce dernier pour comprendre ce qui venait de se passer. Il vit le berceau vide. Claudine éperdue et défaillante, et il se douta qu'un rapt avait été commis. « Claude, Claude, » dit-il avec impétuosité, « ils t'ont pris ton enfant, n'est-ce pas? Parle, où sont-ils? Réponds !» Dubosc avait un pistolet à la main. Claudine lui indiqua la fenêtre, et d'un bond, il l'eut bientôt franchi. Puis, quelques minutes après, un coup de feu retentit, suivi presque aussitôt d'un cri de douleur. Claudine était tombée à genoux, elle avait joint les mains et priait. Pour la première fois de sa vie, elle adressait au ciel une prière. Oh, ce n'était ni pour elle-même ni pour Dubos qu'elle implorait Dieu. C'était pour la pauvre créature qui venait de lui être ravie. Quand Dubos reparut, elle ne lui répondra pas s'il était sain et sauf. Elle ne songea pas à s'enquérir de ce qui s'était passé. Elle n'eut qu'un cri sur les lèvres, qu'un sentiment dans le cœur. « mon enfant !» dit-elle, et pleurait haletante. Un sombre nuage passa à ces mots sur le front de Dubos, et pendant qu'il baisait le front de la pauvre mère, un amer sourire effleura ses lèvres. « Ton enfant, répondit-il, il est resté vivant entre les mains de ces misérables. » Claudine le regarda avec un étonnement douloureux. « Vivant ? » répéta-t-elle, « mais tu sembles dire ce mot à regret. Oh, qui sait ? Préférerais-tu donc qu'il fût mort ? Peut-être. Oh, tu blasphèmes. » « Non, Claudine, non, car cet enfant sera notre malheur à tous deux. Guillaume, notre malheur, te dis-je, car toi qui m'aimes, toi qui m'es dévoué, toi qui donnerais ta vie pour la mienne s'il le fallait avant 8 jours, tu auras trahi le père pour assurer la vie de l'enfant. » Dubos avait dit vrai. Entre Claudine et Dubos, entre l'amour que la jeune femme avait voué à cet homme, il y avait un abîme profond, insondable, qu'avait tout à coup creusé le sentiment de la maternité. Dubos le comprit tout de suite, mais il ne fut pas seul à pressentir ce qui allait se passer. Pinsard était non moins bon observateur que lui, et ne s'était pas trompé un moment sur le parti qu'il y avait à tirer de cette situation nouvelle.
La malheureuse Claudine était donc surveillée avec une égale ardeur et par Dubosc et par l'agent de M. Emery. Elle ne sortait plus sans être suivie et chaque nuit, un homme faisait le guet autour de sa demeure. 8 jours se passèrent. Claudine était revenue rapidement à la santé. S'il avait eu près d'elle la chère créature qui l'avait été ravie, rien n'eût manqué à son bonheur. Mais Dieu ne bénit jamais de pareils amours. Elle n'avait revu ni Pinsard ni Dubosc. Elle vivait seule dans le réduit où elle s'était réfugiée, et elle ne trouvait ni une consolation ni un espoir. 8 jours se passèrent ainsi, 8 longs jours, pendant lesquels elle n'eut pas un instant de repos et fut tourmentée par 1000 inquiétudes et visitée par 1000 fantômes. Elle en était arrivée à préférer un accident, quel qu'il fût, à cet état de calme qui avait fini par exalter sa nature nerveuse. Elle résolut donc d'avoir le cœur net de tous les dangers qui la menaçaient, et le soir du 8e jour, elle revêtit ses habits d'homme, jeta un manteau sur ses épaules, posa un chapeau à large bord sur son front, et après avoir glissé une paire de pistolets chargés dans sa ceinture, elle gagna la porte d'un pas ferme et assuré. Mais au moment où elle allait poser la main sur la serrure, la porte s'ouvrit d'elle-même et un homme entra. Elle crut d'abord que c'était Dubosc, mais ce n'était que Firmin. Son cœur se serra à cette première contrariété. Puis son regard s'attacha, sombre et menaçant, au visage de l'agent subalterne. « Ah, vous voilà enfin !» dit-elle d'un ton saccadé. « Je commençais à craindre de vous revoir jamais. » Firmin ne répondit pas tout de suite. Sa contenance était embarrassée. Il parut même éviter de rencontrer le regard de la jeune femme. Un affreux soupçon traversa l'esprit de Claudine. « Qu'y a-t-il » demanda-t-elle avec vivacité. « Et pourquoi ne me regardez-vous pas en face ?»« C'est que... »« Dubosc est-il pris ?»« Non, pas encore. »« Vous venez me donner des nouvelles de mon enfant ?»« En effet. »« Me conduire près de lui ?» Quand vous voudrez. » Claudine avait déjà laissé échapper un cri de joie. Elle se contint presque aussitôt et comprima sa poitrine avec force. « Mon Dieu » balbutia-t-elle d'une voix défaillante, « un malheur est arrivé. Ne me trompez pas. Mon enfant est mort. » Firmin protesta du geste. « Non, n'en croyez rien, » répliqua-t-il. « Seulement, quand je l'ai quitté tout à l'heure, il était souffrant. »« Mon Dieu !»« On avait envoyé chercher un médecin. »« Eh bien, le médecin n'est pas rassuré. Il craint qu'il ne passe pas la nuit. Et dans cette situation, vous êtes venu me chercher. »« Oui, c'est cela. » Claudine baissa avec un transport fou les mains de l'homme qui lui parlait. « Ah, c'est bien cela !» dit-elle avec explosion. Voilà une pensée qui vous sera contée un jour. Partons, partons, ne perdons pas une seconde. Je veux l'embrasser au moins une dernière fois. » En parlant ainsi, Claudine avait couru vers la porte. Mais quand elle se retourna pour s'assurer que Firmin la suivait, elle vit que l'agent n'avait pas bougé et qu'il était resté impassible à sa place. Une lueur traversa son cerveau et l'illumina tout entier. Elle devinait. C'était un marché que ce misérable était venu lui proposer, et non une suprême consolation qu'il lui apportait. Marché infâme, abominable échange, où son cœur devait trouver une égale torture, un même déchirement. « Mais qu'attendez-vous donc ? » demanda-t-elle, cherchant encore à se tromper elle-même. « J'attends l'adresse de Dubosc, » répliqua Firmin. Ah, « je le savais bien. Consentez-vous à me la donner ? Vous êtes un misérable. Répondez. Mais vous me rendrez mon enfant. Je vous conduirai près de lui.
À l'instant, quand vous voudrez.
Claudine était devenue grave. Par un effort violent, elle avait méprisé l'horrible douleur dont elle était déchirée et présentait à son interlocuteur un visage impassible et froid.
« Soit, » dit-elle d'un ton saccadé, « soit. Il faut bien vouloir ce que vous voulez. Vous me prenez le cœur entre deux tenailles ardentes. Je me résigne. Dubosc saura que je ne pouvais pas faire autrement. C'est mon enfant et le sien, et pour lui, je vais commettre la plus abominable des crimes. Marchons. »
Elle avait ouvert la porte, elle fit signe à l'agent de la suivre et gagna la rue.
« Et maintenant, ajouta-t-elle, montrez-moi le chemin et conduisez-moi. »
« Mais l'adresse de Dubosc, » insista Firmin.
« Quand j'aurai mis le pied sur le seuil de la maison où vous cachez mon enfant, je vous ferai connaître la retraite de Guillaume. »«
Vous le jurez ?
Marchez, vous dis-je. J'accomplirai loyalement l'engagement que j'ai pris. Se me rappelez-vous bien ceci, maître Firmin ? Cette nuit passée, ne vous présentez jamais à la portée de mon pistolet ou de mon poignard, car je vous tuerai comme un chien.
Est-ce tout ? Dit Firmin en haussant les épaules.
Je vous suis, répondit Claudine.
Chapitre 55. La trahison. L'agent et Claudine s'éloignèrent à pas rapides et marchèrent une demi-heure environ, au bout de laquelle Firmin s'arrêta à l'entrée d'une des rues tortueuses qui avoisinait l'hôtel de ville.
« Sommes-nous arrivés ?» demanda Claudine.
« C'est ici, » répondit Firmin. « Vous demanderez la mère Marthe. » Il indiqua une maison de sinistre apparence, une sorte de bouge, au-dessus de la porte duquel une méchante enseigne annonçait qu'on logeait à la nuit.
« Bien, » fit Claudine d'une voix sourde. « Donnant, donnant, voici l'adresse de Dubosc. »«
Ce papier, où il lisait ?» Firmin lut. Il y avait sur le papier cette seule indication, rue Hauteville, numéro 11. Il se retourna, Claudine était déjà loin. La malheureuse avait couru vers la maison qu'on lui avait désignée. Son cœur battait à se rompre, sa poitrine haletait, elle mordait ses lèvres pour ne pas éclater en sanglots. En deux bonds, elle fut chez le logeur et demanda à la mère Marthe. « Est-ce pour l'enfant ? » questionna le logeur sur un ton singulier.
« L'enfant, oui, pour l'enfant, » répondit Claudine.
« Au troisième, alors, la porte à gauche. » Claudine ne prit garde ni au ton dont ces paroles étaient prononcées, ni au cri mendieux que le logeur échangea avec sa moitié. Elle ravit vivement l'escalier, franchit les trois étages et ne s'arrêta qu'à la porte désignée. Là, elle se remit un moment et prêta l'oreille. À l'intérieur, rien ne se faisait entendre. Elle frappa timidement d'abord et personne ne répondit. Alors elle eut peur. D'une main tremblante, elle poussa la porte et entra dans la chambre. Une chambre nue, sale, obscure, mal éclairée par une mauvaise chandelle. Claudine ne vit rien dans le premier moment, puis elle finit par distinguer une hideuse vieille qui mangeait, attablée dans un coin sombre de la chambre. La vieille s'était levée à sa vue.
« Marthe ? » demanda Claudine d'une voix assurée.
« C'est moi ?» répondit la vieille en s'essuyant les lèvres. Claudine ébaucha un sourire.
« C'est vous qui avez pris soin de l'enfant ? » continua-t-elle.
« Moi seul, depuis 8 jours, je puis dire qu'il n'a pas manqué de rien, le pauvre petit.
Cependant, on m'a dit qu'il avait été malade.
C'est cela. Oh, ça n'a pas dépendu des soins, allez.
Mais il est mieux maintenant. Mieux, répéta la vieille d'un air hébété. Et instinctivement, elle fit quelques pas en arrière. Claudine sentit son cœur se serrer, une sueur froide perla sur son front sans qu'elle eût pu dire pourquoi. Un épouvantable soupçon ébranla tout son être. La hideuse vieille était restée interdite et muette. Sa contenance était embarrassée, elle n'osait relever les yeux. Le regard de Claudine se mit à parcourir la chambre, et tout à coup, sans qu'on lui eût rien dit, elle devint pâle comme un suaire et un cri rauque s'arrêta dans son gosier. À l'angle opposé de la chambre, celui que lui avait caché la porte quand elle était entrée, elle venait d'apercevoir une chose horrible. Sur deux chaises dépenaillées et collées contre la muraille, était placé un petit cercueil d'enfant recouvert d'une serviette blanche à laquelle pendait attaché un rameau de buis béni. C'était son enfant. Il était mort. Firmin l'avait abominablement trompé. Oui, qui sait, peut-être n'avait-il pas osé lui dire toute la vérité. La secousse fut effrayante. La pauvre mère ne s'attendait pas à un si épouvantable malheur. Ce coup la frappait sans préparation et brisa, pour un moment du moins, tout ce qui restait en elle de force, de volonté et d'énergie. Elle s'approcha du cercueil, souleva lentement le suaire qui le recouvrait et prit l'enfant mort dans ses bras. Avait-elle bien réellement conscience de ce qu'elle faisait? On pouvait en douter. Le petit corps était glacé. Elle l'accabla de caresses et de baisers comme s'il eût été vivant et l'appela des plus doux noms comme s'il eût pu lui répondre. « Maudite, je suis maudite !» disait-elle en sanglotant. « Dieu ne l'a pas voulu. C'était indigne d'être mère. Il m'a refusé cette joie suprême et cet enfant qui eût pu me racheter s'il avait vécu. Il ne m'aurait été donné que pour me pousser à la plus cruelle des trahisons. » Claudine acheva à peine ses paroles. Un éclair venait de sillonner son regard. Elle se rappelait Firmin, Dubosc, la rue Hauteville, et une violente trépidation agita ses membres. D'un geste fébrile et saccadé, elle replaça l'enfant dans sa bière, lui jeta un dernier regard et un dernier baiser, et reprenant aussitôt sa volonté ferme, elle marcha d'un pas résolu vers la porte et disparut en courant, laissant la vieille Marthe hésitante et troublée, se demandant si elle ne venait pas d'avoir affaire à une folle. Claudine était folle, en effet, folle de rage, de désespoir et de honte. Une fois dans la rue, le sentiment de la réalité la saisit tout entière. Elle chassa loin d'elle avec violence la pensée de son enfant pour ne plus songer qu'à Dubosc. C'est rue Hauteville qu'elle allait, et craignant d'arriver trop tard, elle regrettait maintenant le temps qu'elle avait perdu. Le trajet était long. Elle ne trouva pas de voiture sur son chemin et ne cessa de courir, étreignant sa poitrine, étouffant ses cris, dévorant ses larmes. Quel drame à cette heure dans le cœur de cette femme! Enfin, elle atteignit le but de cette course effrénée. La maison était silencieuse, les abords en étaient déserts, elle n'aperçut aucun agent alentour. Un rayon d'espoir vint à elle. Elle entra. Le concierge était sur le pas de sa porte. Dès qu'il la vit, il mit un doigt sur ses lèvres. Elle pensa à défaillir. « Quoi? Qu'y a-t-il ? » demanda-t-elle. Le concierge était tout à Dubosc. Il entraîna vivement au fond de sa chambre. « Ben, il y a, répondit-il, qu'ils sont là-haut. »«
Les agents ?»«
Oui. »«
Mais Dubosc,
déniché. » Claudine respira. « Cependant, continua le concierge, Il faut pas chanter victoire encore.
Pourquoi donc?
Il a pu se sauver, mais on est sur ses traces.
On le poursuit?
Oui, de très près. On a eu sur pied les hommes du poste du petit carreau. Il aura de la chance tout de même s'ils tombent pas entre leurs mains.
Claudine frissonna. Tout en écoutant le concierge, elle prêtait l'oreille au dehors. Elle venait d'entendre une sourde et confuse rumeur. Elle s'élança dans la rue. À 20 pas devant elle, un groupe d'hommes s'avançait, entraînant un malheureux qui se débattait avec fureur. Elle n'eut pas de peine à reconnaître Dubosc. Ce dernier venait du reste de l'apercevoir lui-même et lui avait fait un geste ironique de la main.
« Toi, c'est toi qui m'as trahi, lui dit-il en passant. Ah, je l'avais bien prédit. Cet enfant devait être notre malheur.
Grâce, grâce, balbutia la pauvre femme, joignant les mains.
Dubosc passa sans répondre un mot. Était-ce lui qui refusait de répondre? Était-ce les agents qui ne lui avaient pas laissé le temps? Claudine put à peine s'adresser ses questions. Derrière le groupe qui s'éloignait, elle venait de remarquer Firmin, et une haine implacable et folle s'empara d'elle. Elle courut à l'agent, tira un pistolet de sa ceinture, et d'une main irritée et aveugle, elle lâcha la détente vengeresse. C'est tout ce qu'elle put faire. Un voile passa aussitôt sur ses yeux, une faiblesse mortelle envahit ses membres. Elle roula, inanimée, sur le pavé.